Le journal de la mi-journée avec vous, Anthony Montandon, bonjour.
Bonjour, les lacs et les rivières de la région sont interconnectés, tout ça pour éviter des inondations trop importantes et trop fréquentes. Et comment fonctionne ce système né des travaux de correction des eaux du Jura? La réponse dans quelques instants. Se doter d'un observatoire fédéral est indispensable pour combler les lacunes de l'accueil de la petite enfance dans notre pays. Cette tâche est pourtant, en temps normal, du ressort des communes et des cantons. Une parlementaire fédérale souhaite pourtant attirer l'attention de la Confédération sur ce sujet, raison pour laquelle elle a déposé une motion. Le départ officiel des Jeux Olympiques, c'est pour demain. Des épreuves ont toutefois déjà débuté dans la compétition. Une compétition plus que particulière, comme vous pourrez l'entendre dans la page sport. La journée sera bien ensoleillée sur l'ensemble de la région. Quelques nuages devraient faire leur apparition en fin de journée, principalement sur les hauteurs, mais sans être inquiétant. Les températures grimperont au maximum jusqu'à 28 degrés. Réguler les eaux pour réduire l'impact des crues des lacs du pied du Jura. C'est l'objectif des 6 cantons concernés, Berne, Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Soleure et Argovie, ainsi que de l'Office fédéral de l'environnement. Mais comment ce processus fonctionne-t-il, Loïc Georgi?
Eh bien, Anthony, l'une des pièces maîtresses de ce système, c'est le barrage de Porte, puisqu'il agit sur le niveau des lacs et sur le débit de l'Arre. Les 5 vannes présentes sur le barrage permettent d'abaisser le niveau du lac afin qu'il puisse absorber un volume d'eau plus important, ce qui va avoir une influence directe sur les lacs de Neuchâtel et de Morat, puisqu'ils sont reliés par les canaux de la Thielle et de la Broye. En contrôlant les masses d'eau à la sortie du lac de Bienne, les barrages de Porte permettent aussi de réduire les risques de crues de l'Arre en aval. Si le lac de Bienne est une pièce centrale de cet engrenage, c'est notamment car il recueille les eaux d'un quart de toute la surface de la Suisse.
Et justement, des travaux de correction ont eu lieu entre 1962 et 1973 pour permettre d'améliorer cette régulation. Des correction qui avait un but bien précis, Loïc.
Et oui, effectivement, le but était d'à tout prix éviter de nouvelles inondations comme en 2007. Mais pour ceci, il est primordial que la régulation des niveaux et des débits concilie les intérêts divergents des différents acteurs. Des questions doivent donc se poser, comme par exemple, faut-il inonder le canton d'Argovie pour éviter une crue du lac de Bienne? Et justement, ces 5 vannes du barrage de Porte sont réglées de façon à maintenir les variations des eaux dans des limites qui tiennent compte des exigences au niveau des lacs de Bienne, de Neuchâtel, de Morat et du débit de l'Arre en aval.
Merci Loïc. Et à la fin de la semaine dernière, les représentants des 6 cantons se sont concertés avec l'OFEV pour décider de continuer à augmenter le débit de l'Arre à la sortie du lac de Bienne. L'objectif était de créer de la place dans les 3 lacs en cas de nouvelles précipitations. Les trains ne circulent plus entre Sons-Bossombeval et La Chaux-de-Fonds. Selon une annonce faite par les CFF ce matin, des dérangements techniques survenus aux installations ferroviaires en sont la cause. La durée de la perturbation est encore indéterminée. Il ne faut pas forcer la main aux soignants et les obliger à se faire vacciner contre le coronavirus. C'est l'avis de l'Association suisse des infirmières et infirmiers. L'ASI conçoit que le vaccin représente la meilleure forme de protection contre le virus, mais elle estime qu'une telle obligation serait contre-productive et pousserait de nombreux professionnels à quitter le milieu. L'association relève que le personnel soignant a beaucoup donné durant la pandémie et que de rendre le vaccin obligatoire pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme elle le dit. Comment combler les lacunes de l'accueil de la petite enfance en Suisse? La conseillère aux États, Elisabeth Baumschneider, demande de créer un outil qu'elle juge indispensable, un observatoire fédéral. La socialiste jurassienne a déposé un postulat en ce sens, que le plénum du Conseil des États examinera prochainement. Le Conseil fédéral donnera aussi son avis. Les structures d'accueil de la petite enfance, ce sont des affaires communales et cantonales, avec des approches très différentes entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Alors pourquoi en faire une cause fédérale, Elisabeth Baumschneider?
Pour coordonner, pour comprendre où sont encore les lacunes en termes d'accès, notamment à tout ce qui concerne les structures d'accueil pour la petite enfance, que ce soit préscolaire ou parascolaire, on voit qu'il y a une mine d'informations, mais qui sont souvent éclatées.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'en faire une forme d'usine à gaz?
Ça serait bien sûr le risque, mais l'usine à gaz, alors elle existerait déjà aujourd'hui, parce qu'on le voit bien, il y a différentes conférences au niveau cantonal, que ce soit la CDAS, la CDIP, la CDF, enfin toutes ces conférences cantonales. nationale qui dispose de certaines informations, mais on n'a toujours pas une cartographie exacte, par exemple, au niveau de l'accueil de la petite enfance. Après, on a au niveau des tarifications, on a au niveau de l'offre à augmenter dans certains cantons ou dans certaines régions. C'est vrai que les enfants n'ont pas de lobby en tant que tel. Je co-préside avec Philippe Couter, qui est un parlementaire PDC du National Alliance Enfance, parce qu'il y a cette nécessité, cette volonté d'avoir un peu comme un lobby de la petite enfance au niveau national.
Des propos recueillis par Serge Jubin. Elisabeth Baumschneider a bon espoir de faire aboutir son postulat. En plus des appuis à gauche, elle a obtenu les signatures de parlementaires du centre et du PLR. Il demande d'arrêter les contrôles de Faciès, un collectif d'associations dont Amnesty International saisit la justice à travers une action de groupe. Il demande à l'État français de cesser les contrôles d'identité discriminatoires par la police. Leur requête de 450 pages s'appuie sur des témoignages et procédures françaises documentant ces discriminations. Les associations saisissent la justice pour contraindre l'État à mettre en place des mesures contre ces contrôles de faciès. Minute de silence en Norvège. Le pays commémore aujourd'hui les 10 ans du double attentat par le néo-nazi Anders Behring Breivik. Il avait fait 77 morts. L'homme, on rappelle, s'était déguisé en policier, avait fait exploser une bombe près du siège du gouvernement à Oslo avant d'ouvrir le feu sur un rassemblement de la jeunesse travailliste. Les survivants souffrent encore de troubles importants post-traumatiques. Et plus de 200 migrants d'Afrique subsaharienne ont franchi la frontière de Melilla. Ils ont escaladé la clôture de l'enclave espagnole au Maroc, munis de crochets ce matin vers 7h. Les migrants ont été transférés dans un centre de séjour où ils resteront en quarantaine en raison de la situation sanitaire, précise un communiqué de la préfecture de Melilla.
Merci beaucoup Anthony, midi et 22 minutes pour être complet, on passe au sport.
Sport. La famille olympique s'apprête à sortir de l'ombre. Les Jeux de Tokyo commencent officiellement demain soir avec la cérémonie d'ouverture et se tiennent jusqu'au 8 août dans la capitale japonaise. La pandémie de coronavirus avait contraint les organisateurs à repousser ces joutes d'une année. Et si elle n'empêchera pas leur tenue en 2021, elle pèse encore de tout son poids sur le déroulement des événements. Notre envoyé spécial à ces JO de Tokyo nous explique les contraintes auxquelles doivent faire face notamment les journalistes sur place. Émilie Mumenthaler.
Des Jeux Olympiques, ça se prépare et cette édition à Tokyo encore plus. La presse a reçu il y a plusieurs mois un manuel explicatif sur ce qu'elle ose et surtout n'ose pas faire. Ce playbook de 70 pages en anglais en est à sa troisième version. Les journalistes sont déjà censés limiter leurs interactions sociales et être attentifs à leur état de santé 2 semaines avant le départ. Ensuite, pour entrer sur le sol japonais, 2 tests PCR sont requis. Un réalisé dans les 96 heures et un autre dans les 72 heures avant le décollage. Et après un vol de 11h30, il faut encore faire preuve de patience avant de rallier son hôtel. L'accueil est cordial, mais il faut compter près de 6 heures pour quitter l'aéroport. Entre les multiples contrôles administratifs, le test salivaire et l'attente qui ponctue chaque étape. Une fois le feu vert reçu, le séjour commence par 3 jours de quarantaine où seule une sortie quotidienne de 15 minutes est autorisée, avec un test de dépistage chaque jour. Ensuite, durant les 14 premiers jours sur place, les journalistes n'ont pas accès au transport public et ils ne peuvent pas manger au restaurant ni se rendre dans un magasin non essentiel et ils doivent se faire tester régulièrement. Difficile, dans ces conditions, de ne pas avoir le spleen dans sa chambre de 11 mètres carrés, densification oblige. Mais la flamme va à coup sûr renaître dès les premiers pas sur les lieux de compétition. Ces JO ont déjà fait couler beaucoup d'encre, mais il ne faut pas oublier qu'il reste encore les plus belles pages à en écrire. Et il faut espérer que ce sont les athlètes qui auront le dernier mot.
Et le grand coup d'envoi de ces Jeux Olympiques de Tokyo, ce sera donc vendredi avec la cérémonie d'ouverture. La Suisse y sera représentée par 116 athlètes jusqu'au 8 août. Et pour le coup, Munjinga Kambudji et Max Heinzer seront les porte-drapeaux de la Suisse demain lors de cette cérémonie. La sprinteuse et l'épéiste ont été désignés par le chef de mission Ralf Stöckli. Munjinga Kambudji incarne un athlétisme suisse en plein essor, médaillé de bronze sur 200 mètres aux Mondiaux de 2019. Le Schweizois Max Heinzer a lui été sacré champion du monde par équipe en 2019 et compte 10 médailles européennes à son palmarès. Et la cascade de forfaits continue à ces JO. Le champion d'Europe du 400 mètres 4 nage Ilia Borodin est forfait après un test positif au Covid. Le Russe était candidat à une médaille. En revanche, le double champion olympique de natation, Oussama Melouli, s'alignera finalement sur le 10 km en eau libre. Forfait dans un premier temps en raison d'un conflit avec sa fédération, le nageur tunisien est revenu sur sa décision après discussion entre les deux parties. Deux clubs suisses en quête d'une qualification pour la nouvelle Ligue Europa Conférence de football. Servette se déplace dès 18h sur la pelouse des Norvégiens de Molde en match aller du deuxième tour qualificatif. Plus tard dans la soirée, le FC Bâle reçoit les Albanais du Partizani Tirana à 20h15. Les matchs retour auront lieu dans une semaine. Un nouveau report de match pour la première journée de Challenge League de football qui s'ouvre demain. La rencontre entre Thun et Yverdon a aussi été renvoyée après le test positif d'un joueur bernois. Toute l'équipe de Thun a été placée en quarantaine. Xamax Haro et Shafouz Kriens avaient déjà été reportés en raison des inondations à Neuchâtel et du Covid. Et toujours en football, le FC Bienne poursuit ce soir sa préparation en vue de la prochaine saison de Promotion League. Les Célandais reçoivent Könitz, club de Première Ligue à 20h30 à la Tissot Arena. Ils disputeront encore un match amical lundi prochain avant le début du championnat dans 10 jours. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau journal. Prochain rendez-vous à l'antenne avec l'actualité, c'est à 16h. Très belle journée.
Merci beaucoup Anthony. Et moi je vais continuer à aller faire du water poney, ce sera beaucoup plus facile. Petit coup d'œil à la météo de cette journée de jeudi qui sera des plus ensoleillées. Et puis comme tous ces derniers jours, les experts de Météo News nous rappellent qu'il y aura quelques cumulus qui vont s'installer sur la région dans l'après-midi, surtout sur les hauteurs, mais sans pour autant gâcher vos éventuelles grillades de fin de journée. Beau donc, et chaud aussi, le thermomètre continue de grimper et on attend pour aujourd'hui 25 degrés à Tavannes, Tramelan et Saint-Imier. Il fera 27 à Moutiers ou encore 28 autour du lac de Bienne au meilleur de la journée. Demain devrait être le pic estival de cette semaine avec des températures encore en hausse avant l'arrivée d'une dégradation prévue pour samedi en seconde partie de journée qui nous amènera des averses et des orages localement violents.